Yep, already.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Encore Heureux. Troisième d'une fratrie de 8 enfants, Herman Melville naît le 1er août 1819 à New York, dans une famille néerlandaise et écossaise. Ses deux grands-pères sont des héros de la guerre d'indépendance. Son père, Alan Melville, a un destin moins glorieux. Il fait faillite dans une entreprise d'importation et meurt assez tôt d'une pneumonie. Le jeune Herman est élevé par sa mère, une femme rude et distante. La situation financière de la famille est désastreuse. Herman est obligé de quitter l'école. Il parvient malgré tout à suivre quelques cours à l'Albany Classical School, où il lit Cooper et Byron. Il bourlingue beaucoup, successivement employé de banque, précepteur, garçon de ferme, instituteur, comptable, avant de s'embarquer comme mousse en janvier 1839 sur le Saint-Laurence, un cargo en partance pour Liverpool. Il n'a pas 20 ans. 10 ans plus tard, il écrira Redburn, premier voyage d'un mousse, qui est le récit autobiographique de ce premier embarquement. Un premier voyage très dur. Le jeune Herman, instable, inquiet et déclassé, souffre du mépris à la fois des officiers et de l'équipage. En 1840, la grande aventure qui inspirera Moby Dick commence. Melville s'embarque sur un baleinier trois mâts pour une campagne de chasse à la baleine qui doit durer 4 ans. Au bout d'un an et demi, il déserte avec un ami. Il se retrouve dans une île du Pacifique où la jungle est peuplée de 2 tribus, les Hopards, plutôt civilisés, et les Taipis qui sont des cannibales. À chaque pas, les déserteurs s'interrogent donc avec angoisse, Taipi ou Hopard. Ce sont finalement les cannibales qui le prennent et l'engraissent. Mais les hommes se révèlent amicaux et les femmes totalement nues, ce qui fait qu'à part l'incertitude d'être mangé, Melville coule d'assez beaux jours chez les cannibales. Il les quitte néanmoins au bout d'un mois pour s'engager sur le Lucy Ann, qu'il déserte à nouveau peu de temps après, cette fois à Tahiti. Rejoignant Papette, il s'embarque alors sur un baleinier, le Charles and Henry, qu'il déserte à nouveau à Hawaï pour s'engager sur la frégate United States. Là, il connaît les brimades, le fouet. Melville n'est qu'un simple marin, de ceux qui rament comme un forçat. Il n'est pas un de ces harponneurs qui plantent les baleines avec force et adresse.
En 1844, 4 ans après son départ, Melville débarque à Boston et commence à raconter ses aventures. Taipi, l'histoire des cannibales, et Omu, celle de Tahiti, paraissent en 1846 et 1847. La carrière de marin est achevée, celle d'écrivain commence. Les 2 livres connaissent un gros succès. Curiosité et scandale, Melville est aux anges. Il découvre la littérature, lit Shakespeare, Emerson, Carlyle, Marlowe. En 1849 sort Mardi, un roman maritime d'aventure. Il décrit les pérégrinations d'un marin qui, après avoir quitté son baleinier, s'en va parcourir le Pacifique Sud. Le marin s'échoue sur l'archipel de Mardi, tombe amoureux d'une vierge blonde qui disparaît menée au sacrifice par un vieux prêtre polynésien. La recherche de cette femme, Yilla, l'inaccessible étoile, symbole de beauté, de pureté et d'harmonie, devient alors l'intrigue centrale du roman. Mardi est un grand livre symbolique qui brasse tous les thèmes chers à Melville. La mer, la lutte contre le mal, la culpabilité, la transcendance. Le livre s'achève sur le vertige d'un monde infini. La chasse continuait sur un océan sans fin, qui annonce le magistral Moby Dick.
Le 4 août 1847, Melville épouse Elizabeth Shaw, la fille d'un magistrat de Boston. Le couple s'établit à New York. Il aura 4 enfants. Fortement endetté, l'écrivain se met alors à écrire comme un forcené à la vitesse de 3 000 mots par jour. en 1850, lassé de Manhattan et des océans, Herman Melville s'installe dans une petite ferme des Berkshires. Moby Dick, ou la baleine blanche, son chef-d'œuvre, est alors en cours d'écriture. À cette période de sa vie, l'écrivain est le chef d'une famille nombreuse, formée de sa femme et de son fils, mais aussi de sa mère et de ses sœurs. Il est encore assez jeune et robuste pour le travail de la ferme. Mais une autre raison le motive particulièrement. La présence, un peu plus au sud, à Lenox, de l'illustre écrivain Nathaniel Hawthorne, avec qui il va nouer une profonde amitié. Melville baptise la ferme Arrowhead, ce qui signifie « tête de flèche », en raison des objets indiens qu'il trouve dans la terre en labourant les champs. De sa fenêtre, il aperçoit le mont Greylock, le point culminant du Massachusetts, dont les formes arrondies lui évoquent une baleine. Une bosse, comme une baleine blanche, c'est Moby Dick, écrira-t-il. Sous l'influence de Hawthorne, il réécrit entièrement sa baleine blanche. Il reste parfois enfermé 12 heures d'affilée pour retravailler son manuscrit, à s'en abîmer les yeux. Il ressort de chaque séance d'écriture hébété, hagard. Dans une lettre adressée à son ami Hawthorne, Melville décrit ses journées à Arrowhead.
Voulez-vous savoir comment je passe mon temps? Je me lève à 8 heures, à peu près, et je vais dans ma grange. Je souhaite le bonjour au cheval et lui sers son petit déjeuner. Cela me fend le cœur de lui en donner un froid, mais on n'y peut rien. Puis, je rends visite à ma vache, je découpe une citrouille ou deux pour elle et reste à ses côtés pour la regarder manger, car c'est une vision plaisante que de voir une vache bouger ses mâchoires. Elle le fait avec tant de douceur et de sainteté. Après mon propre déjeuner, je me rends dans mon bureau et y allume mon feu. Puis, j'étale mon manuscrit sur la table, j'y jette un rapide coup d'œil professionnel et je me mets au travail de bon cœur.
L'été, des visiteurs viennent de New York. Des pique-niques, des excursions sont organisées sur les flancs escarpés du mont Greylock. Puis Melville retourne au travail, celui de la ferme, et celui non moins épuisant de l'écriture. À la fin de la journée, il s'écroule dans le rocking chair installé sous le porche de la maison.
J'ai labouré et semé, et cultivé, et imprimé, et prié, et je commence aujourd'hui à aborder une période plus paisible et à profiter de la perspective tranquille des choses depuis une jolie véranda au nord de cette vieille ferme.
Les hivers sont particulièrement éprouvants. La famille se trouve isolée, et entre le dur travail de la ferme, les déceptions littéraires quand l'Amérique commence à ignorer ses livres, et la pression de vivre dans une petite maison avec une famille nombreuse, Arrowhead et le Berkshire finissent par perdre de leur charme. Le coup de grâce est porté lorsque Hawthorne déménage en 1851. Écrasé par les soucis financiers et devenu trop faible pour s'occuper de la ferme, Melville ramène sa famille à New York. Arrowhead est récupéré par son frère dans le cadre d'un échange de maison. La ferme reste dans la famille jusque dans les années 1920. Melville lui-même y retournera pendant ses vieux jours. En 1975, la Société historique du comté du Berkshire la transforme en lieu de pèlerinage à la mémoire de l'écrivain. La maison est une modeste ferme de la Nouvelle-Angleterre, qui semble encore plus petite quand on pense que 11 personnes y ont vécu ensemble. Le rez-de-chaussée est dominé par une cheminée noire et massive. À l'étage se trouve la principale chambre à coucher de la famille. Et de l'autre côté d'un couloir étroit, le bureau de Melville, où l'on peut lire, sur une petite plaque en cuivre, « Dans cette maison, Herman Melville écrit Moby Dick ou la baleine en 1850-1851. » Encore heureux, portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B.
Ismaël, le narrateur de Moby Dick est un jeune marin qui veut embarquer sur un navire pour aller chasser la baleine. Au cours de ses recherches, il découvre deux ports baleiniers réputés, New Bedford et Nantucket, et toute l'atmosphère des grands ports de pêche, les quais brumeux et les auberges remplies de matelots attendant le départ. Dans l'auberge où il élit domicile avant d'embarquer, Ismaël rencontre Quiqueg, un indigène des îles du Sud. Quiqueg est un harponneur, couvert de cicatrices sur tout le corps et qui promène partout avec lui une tête humaine et une idole noire. Ensemble, les deux hommes s'engagent sur le Pequod. Le navire est commandé par l'énigmatique capitaine Achab. En mer, Achab et son équipage donnent la chasse aux baleines pour récupérer leur précieuse huile qu'ils vendront ensuite dans les ports. Mais en réalité, Achab poursuit un autre but. Trouver Moby Dick, la monstrueuse baleine blanche qui lui a arraché la jambe, et se venger d'elle. Melville décrit tous les éléments du livre très minutieusement. Le baleinier, les harpons, les provisions de bord, les techniques de chasse. Le voyage dure plus de 3 ans sur les océans du globe. Parti pour le Cap Horn, le Pequod passe finalement le Cap de Bonne-Espérance avec ses 20 000 livres de farine et ses 10 000 barils de bœuf. L'équipage est une tour de Babel composée d'hommes de toute race et de toute religion. Melville détaille aussi toutes les espèces de cétacés, ainsi que leurs mœurs, ce qui donne au livre des allures d'encyclopédie.
Publié à Londres et à New York en 1851, Moby Dick ne rencontre pas le succès attendu par son auteur. Le livre est ignoré. Le public boude. Il reçoit ce gros volume de plus de 600 pages avec consternation. Au lieu des cannibales et des vahinés de ses précédents livres, on a une dissertation. La presse s'indigne. Melville est blessé. On l'accepte comme matelot, pas comme écrivain. Seul Nathaniel Hawthorne, qui vient d'achever La lettre écarlate, en reconnaît la poésie et la profondeur symbolique. Il faudra plus d'un siècle pour que le monde reconnaisse à son tour ce monument de la littérature qu'est Moby Dick. L'échec s'explique entre autres par l'évolution du climat social américain. L'Amérique de 1850 n'est plus une petite colonie puritaine. C'est déjà le pays des grandes réalisations industrielles et financières. Le pays de la conquête de l'Ouest qui vient d'annexer la Floride, la Californie, le Texas et le Nouveau-Mexique. La confiance règne. Or, Moby Dick est un livre inquiet, à contre-courant de l'optimisme de l'époque. Melville vivra encore 40 ans après Moby Dick et le capitaine Achab. Mais l'échec du livre l'a détruit. À 33 ans, il est fini, consumé, comme Rimbaud. Il renonce quasiment à écrire. En 1855, il publie une œuvre alimentaire, l'histoire d'un homme exilé injustement hors d'Amérique. En 1856, il réunit quelques nouvelles dans un recueil. À 37 ans, usé par l'effort et par des problèmes de santé, il part pour un long pèlerinage en Terre Sainte, au Moyen-Orient et en Europe. Il entreprend une grande tournée de conférences à travers l'Amérique, au cours desquelles il raconte ses nombreux voyages dans les mers du Sud et sur le vieux continent. Mais l'entreprise rencontre peu de succès et il doit y renoncer. Alors que la guerre de sécession éclate, il écrit des poèmes de guerre qu'il publie à compte d'auteur en 1200 exemplaires. En 1866, sa vie devient un peu plus stable. Il est nommé inspecteur des douanes, une fonction qu'il occupera pendant 20 ans. Sa situation matérielle s'améliore donc, mais il doit toujours lutter pour que ses œuvres poétiques soient publiées. Et lorsqu'elles le sont, elles ne récoltent qu'indifférence ou mépris. Son chemin de croix continue avec une série de décès dans sa famille. En 1867, son fils aîné, Malcolm, se suicide. Son autre fils, Stanwix, qui mène une existence errante, meurt à San Francisco, seul. Melville perd sa mère et plusieurs frères et sœurs. Les dernières années, il travaille à un nouveau récit de mère qui ne sera publié qu'en 1924, soit plus de 30 ans après sa mort. Oublié de ses contemporains, il meurt le 28 septembre 1891 d'une attaque. Il a 72 ans. Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore heureux. Herman Herman Melville est l'auteur du célèbre et monumental Moby Dick, mais aussi d'une nouvelle parue en 1853, Bartleby le scribe, qui, bien que ne comptant qu'une centaine de feuillets, marque toujours autant les esprits 166 ans après sa publication. Écoutons Daniel Pénac, un très grand fan de Bartleby, présenter Bartleby. C'était à la grande librairie de François Bunel.
Bartleby, moi j'aimerais bien comprendre pourquoi ce personnage, Bartleby le scribe, ce personnage d'un roman du 19e siècle, vous permet de créer un roman, un livre au 21e.
Il faut peut-être le présenter aux gens qui ne le connaissent pas, parce qu'il est infiniment moins connu qu'on le croit.
Bartleby ?
Ah oui, alors, ça, les personnages que nous connaissons et que nous aimons depuis toujours, on a l'impression qu'on partage ça avec tout le monde. Et en réalité, en le jouant au théâtre, je me suis aperçu que non.
Alors on est là pour transmettre, les Daniel, racontez-nous qui est cet étrange Bartleby.
Alors, un notaire à New York, dans les années 1850, a deux scribes dans son étude, dont l'un se saoule à midi et ne peut travailler que le matin, ne peut rien faire l'après-midi. L'autre est un atrabilaire qui dort mal et ne travaille pas le matin et ne peut bosser que l'après-midi. Le notaire décide donc d'engager un troisième scribe et un matin d'été apparaît à la porte restée ouverte de son bureau un jeune homme qui est Bartleby. Celui-ci fera de la copie de façon infatigable du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Le notaire est absolument enchanté, bien qu'il le trouve un peu tristouné quand même. Ça. Il aimerait le voir plus actif, plus tonique. Non, mais l'autre écrit... la traduction de Léris, c'est merveilleuse. Lividement, écrit lividement. Jusqu'au moment où le notaire lui demande, ce qui se fait dans toutes les études, de collationner sa copie avec celle de ses confrères, c'est-à-dire corriger le texte qu'il a écrit. Et là, contre toute attente, Bartleby, sans élever la voix, d'un ton tout à fait neutre et paisible, dit « Je préférerais pas ». Dit, comme ça, vous ne préféreriez pas, vous êtes tombé sur la tête. Je veux que vous corrigiez ce feuillet-ci, tenez. Et Bartleby réitère, je préférerais pas. I would prefer not to, en anglais. Phrase qui est devenue absolument emblématique du refus, mais on ne sait pas de quelle nature est ce refus de Bartleby, et c'est ce qui fait toute la force du texte. Au début, tout le monde rigole.
Oui, bah oui.
Monter au théâtre, tout le monde rigole parce qu'on est chez Guignol.
C'est dit, il obéit pas aux ordres.
Voilà, l'employé tape sur le patron, on se marre. Et petit à petit, les rires changent de nature par la seule répétition de ce « I would prefer not to ». Et au dernier tiers du spectacle, plus personne ne rit. L'atmosphère est à couper au couteau parce que le notaire se rend fou dans son désir de comprendre. Ce notaire veut comprendre. Et ça le rend absolument fou. Et le public est totalement en empathie avec le notaire. Car le public aussi veut comprendre.
Mais évidemment.
Ajoutons que l'étrange copiste Bartleby n'a aucun proche, aucun passé, aucun domicile. Il a volé la clé du bureau pour y dormir, qu'il refuse d'être payé et se nourrit exclusivement de gâteaux au gingembre. Les philosophes se sont beaucoup intéressés à l'énigme Bartleby, l'ont beaucoup analysé, Gilles Deleuze en particulier.
Bartleby n'est pas une métaphore de l'écrivain, ni le symbole de quoi que ce soit. C'est un texte violemment comique et le comique est toujours littéral. Ce qu'il dit et répète, « I would prefer not to », traduit par « je préférerais ne pas », c'est la formule de sa gloire, et chaque lecteur amoureux la répète à son tour. Bartleby est l'homme sans référence, sans possession, sans qualité, sans particularité, sans passé ni futur. Il est instantané. « I would prefer not to » est la formule chimique ou alchimique de Bartleby. C'est tout le XXe siècle qui sera traversé par cette recherche de l'homme sans nom, Ulysse des temps modernes, L'homme écrasé et mécanisé des grandes métropoles, mais dont on attend, peut-être, qu'il en sorte l'homme de l'avenir ou l'homme d'un nouveau monde.
Certains penseurs érigent Bartleby en héros de la désobéissance civile. Ils en font le symbole de la résistance passive. D'autres proposent une lecture plus pessimiste et plus psychologisante autour de la figure de l'échec, de la frustration ou de l'incapacité à agir. Dans un cas comme dans l'autre, la nouvelle est déroutante d'absurdité et donc de vérité. Chers auditeurs, merci. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les portraits d'Encore Heureux en podcast sur le site de Radio B. La prochaine fois, en mai, fais ce qu'il te plaît. Je préférerais ou j'aimerais autant vous lire un extrait de Bartleby. En attendant, restez sur nos bonnes ondes. Merci Annie qui était à la réplique. Merci Pauline à la technique. À très bientôt sur Radio B.